BFM Business, BFM Crypto, le club.
Toute l'actualité des crypto-monnaies, de la blockchain, comme tous les jours à 7h06 sur BFM Business, avec nos invités Valentin Demey, journaliste chez Cryptost. Bonjour.
Bonjour Stéphane.
Aujourd'hui, Jérôme Heidenbaum, vice-président en charge des crypto-monnaies chez Idemia. Bonjour.
Bonjour.
Également auteur de La guerre des crypto-monnaies chez Maxima, édition Maxima. Et puis en ligne avec nous, Laurent Pignot, analyste chez Zone Bourse. Bonjour.
Oui, bonjour.
Un mot peut-être pour commencer des niveaux actuellement, puisque le Bitcoin à nouveau tutoie la barre des 20 000 dollars.
Oui, alors effectivement, hein, le Bitcoin gravite toujours autour de cette zone des 20 000 dollars depuis 10 jours. Alors on a eu un rebond qui est assez poussif, assez mou ces derniers jours, notamment le 18 juin lorsque le Bitcoin est tombé au niveau des 17 500 dollars. Et puis après, il s'est repris rapidement pour remonter au-dessus des 21 900 dollars. Mais ce rebond, évidemment, n'est pas assez franc, n'est pas assez puissant pour redonner un signal haussier acheteur de suite. Le contexte macroéconomique est bien évidemment très compliqué, encore très morose pour les actifs risqués comme le Bitcoin. D'ailleurs, si on regarde donc le Crypto Fear and Greed Index, donc l'indice qui représente le sentiment des investisseurs, donc la confiance des investisseurs sur le marché des crypto-monnaies, il est au plus bas, bloqué dans l'extrême peur depuis maintenant le début du mois de mai. Donc ça reflète un peu une situation qui est morose, qui va avec ce contexte macroéconomique plus global. Les niveaux techniques qu'il faut surveiller sur le Bitcoin, bien évidemment, c'est les 20 000 dollars, un niveau qui est toujours très surveillé par les acteurs du marché. Il s'agit bien évidemment du sommet du marché haussier de 2017 pour le Bitcoin, lorsque le Bitcoin gravitait autour des 20 000 dollars. Alors nous nous retrouvons dans une situation qui est finalement un peu similaire à celle du mois de mai, lorsque le Bitcoin était au niveau des 30 000 dollars. On avait une sorte de phase de consolidation à ce moment-là. On se disait qu'éventuellement le Bitcoin pouvait rebondir sur ce niveau, et puis finalement, nous connaissons la suite, il s'est délesté de 10 000 dollars pour retomber au niveau des 20 000 dollars. Alors pour l'instant, nous sommes sur un niveau technique très très fort, un support très très puissant. Au niveau des 30 000 dollars, c'était pareil, c'était les plus bas annuels de 2021. Donc il va falloir attendre, comme je le disais, des signaux acheteurs vraiment puissants pour repasser dans un scénario un petit peu plus positif. Il va falloir dans un premier temps passer les 23 000 dollars pour redonner un premier signal, et surtout les 30 000 dollars. Et là, on pourra commencer à penser que la tendance de fond est inversée, cette tendance baissière que nous connaissons maintenant depuis de nombreux mois, depuis le sommet de novembre 2021. Les prochains supports techniques, si ce niveau des 20 000 dollars venait à lâcher, c'est le niveau des 14 000 dollars. Donc c'est le sommet du marché haussier du Bitcoin lors de l'été 2019. Donc ça pourrait être, si ces 20 000 dollars venaient vraiment à lâcher, le prochain support technique qu'il va falloir surveiller. Voilà, il faut rester vigilant, il faut attendre des signaux positifs, et pour l'instant, il faut être patient sur le Bitcoin.
Un coup d'œil également à l'Ether qui navigue actuellement autour des 1100 dollars après avoir touché un point bas à 880 dollars il y a une dizaine de jours. Est-ce qu'on peut donc considérer que techniquement on est reparti à la hausse sur l'Ether ?
Alors vous en doutez bien, sur l'Ether, la situation est assez similaire avec le Bitcoin. Alors le rebond a été plus important depuis la chute des 880 dollars depuis le 18 juin, mais nous restons toujours autour de cette zone des 1000 dollars, ce prix psychologique des 1000 dollars pour l'Ether. Nous gravitons un petit peu au-dessus, au niveau des 1100 dollars, et comme pour le Bitcoin, ça ne veut pas dire que ce rebond technique confirme un rebond très positif pour l'Ether. Il va falloir rattraper les 1400 dollars, donc le sommet du marché haussier de 2017 pour l'Ether, avant de redonner là aussi un signal haussier. Mais ce rebond technique sur l'Ether sera bien évidemment, comme je le répète de nombreuses fois sur ce plateau depuis de nombreuses semaines, dirigé par le Bitcoin, qui a l'habitude de driver le marché, on le connaît depuis longtemps sur ce marché des crypto-monnaies.
Est-ce qu'il y a une autre crypto-monnaie qui se retrouve dans une zone de prix intéressante à surveiller ?
Alors oui, on a le Binance Coin, donc le BNB, qui se retrouve sur une zone de support qui est vraiment intéressante. C'est ce niveau des 210-220 dollars qui représente finalement les plus bas annuels de 2021 pour le BNB. Donc si, comme pour l'Ether, le Bitcoin venait à se reprendre plus durablement, on pourrait vraiment avoir un rebond intéressant sur le BNB. Mais il faut rester, comme je le disais, très vigilant pour l'instant, être patient et ne pas rentrer trop fortement sur une crypto-monnaie en attendant d'avoir des signaux haussiers.
Merci beaucoup Laurent Pignot, analyste chez Zone Bourse. On va maintenant passer en revue toute l'actualité des cryptos avec d'abord Valentin Demey, journaliste chez Cryptost. Valentin, Chain Analysis s'interroge sur la réelle décentralisation des DAO.
On en parlait hier sur ce plateau, ouais. Effectivement, de cette difficulté. On a des tokens de gouvernance qui permettent de prendre des décisions dans des protocoles de la finance décentralisée. Est-elle vraiment décentralisée, cette finance? C'est ce que cherche à savoir Chain Analysis, qui est cette, en fait, entreprise américaine qui scrute un peu la blockchain pour essayer de comprendre les flux. Et d'après leurs dernières estimations, certains protocoles de la finance décentralisée, les plus grosses DAO, sont contrôlés en fait par 1, 2 ou 3% des adresses qui participent au vote.
Donc, c'est-à-dire une poignée de personnes, une grosse poignée, qui décident de des cryptos de demain, du cadre.
C'est effectivement ce que remonte Chain Analysis. Ça s'explique comment ? Ça s'explique en fait par trois facteurs. Le premier, c'est que ces tokens de gouvernance, ils sont en cours d'émission pour la plupart des protocoles. Ça veut dire que dans les 3, 4, 5, 10 prochaines années, les DAO les plus connus, Curve, Aave et bien d'autres, en fait, ont une politique de création monétaire de leurs tokens qui va s'allonger dans le temps. Donc aujourd'hui, les tokens ne sont pas tous distribués et n'appartiennent pas encore totalement à la communauté. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, c'est un petit peu comme l'abstention dans la vie réelle, dans le vote, c'est que les gens ne vont pas voter. C'est-à-dire qu'en fait, là aussi, il n'y a que 5% des détenteurs des jetons qui vont voter. Le reste ne le fait pas, donc c'est plus facile de le contrôler qu'il n'y a que 5% de personnes qui votent, comme dans la démocratie. Et le dernier point, c'est qu'effectivement, on peut aussi déléguer ces tokens à certaines personnes. Et là aussi, il y a des concentrations de pouvoir. Peut-être par des personnes comme SBF de FTX qui veut prendre plus de place dans cet écosystème de la finance décentralisée, ou d'autres structures comme on l'a vu, des banques privées qui se ruent sur les entreprises crypto qui sont de moins en moins solvables parce qu'elles ont eu des politiques un peu complexes, centralisées cette fois, je pense à Celsius, et qui essaient justement de prendre la main sur les protocoles. Donc on va voir comment les émissions de tokens permettent à la communauté de reprendre la main, peut-être avec de l'éducation et du temps, de comprendre l'enjeu qui se déroule sous nos yeux et l'importance de décentraliser ces décisions.
Jérôme ?
Oui, c'est pas. Enfin, maintenant le sujet est encore plus chaud, mais c'est un vieux combat politique. Entre autres, d'un côté, sur la gauche du ring, on a Square qui est très bloc maintenant. Jack Dorsey qui est pour la décentralisation et qui dénonce, parce que c'est Andreessen Horowitz, le fonds qui est un des plus gros actionnaires quelque part de la finance décentralisée. Et ils ont eu des échanges, Chris Dixon et Jack Dorsey, assez chauds déjà sur le sujet pour savoir est-ce que l'investisseur retail a son rôle à jouer, le droit de vote, ou est-ce que c'est une affaire de VC comme d'habitude.
Autre sujet, on en parlait hier, la Russie pourrait alléger la TVA pour les entreprises émettrices de crypto-monnaies. Qu'est-ce que ça change?
Effectivement, on en a parlé sur le fil du rasoir.
L'info venait juste de tomber.
Exactement, venait juste de tomber avant du direct du plateau. On a un peu plus d'éléments aujourd'hui. Donc la Douma d'État, qui est l'équivalent du Parlement russe, a voté en faveur d'une allègement de la taxe sur la valeur ajoutée. Donc là, c'est ce qu'on disait hier, ça n'a pas bougé. C'est pour dynamiser le territoire, et prouver l'ambition de la Russie de devenir une place forte, comme le Salvador pouvait l'être d'une autre manière, avec, on l'a bien compris, une guerre économique en fond de tableau. D'ailleurs, il y a quelques semaines, la Russie était en train de travailler sur un système SWIFT décentralisé sur la blockchain, donc ça va dans ce sens-là. Donc, concernant la TVA, qui était à 20%, elle passerait à 15% pour la vente d'actifs numériques des acteurs étrangers et à 13% pour les entreprises russes. Donc on a effectivement la volonté de dynamiser le territoire et puis de dire au monde, peut-être qu'en Russie, venez chez nous, il y a des opportunités au moins fiscales.
Ouais, c'est un message fort, message politique, Jérôme ?
Ça montre un peu la concurrence des marchés. Tout le monde veut attirer les cryptos, on n'attire pas...
Mais est-ce qu'il y a une volonté plus forte aujourd'hui de la Russie du fait de la situation et des sanctions internationales ?
Personnellement, je pense que non. Ça a déjà été montré. Pour se sortir des sanctions, il n'y a pas assez de liquidités dans la crypto. Je pense que c'est plus un sujet médiatique qu'un sujet réel.
D'accord. Donc ça ne peut pas être une alternative pour contourner les sanctions. Dossier Cryptost, Valentin. Circle lance l'Eurocoin.
Effectivement, ça se passe demain. Demain, à cette heure-ci, le fameux Eurocoin, l'EuroC, sera sur les plateformes principales européenne, mondiale.
Avec une précision, c'est que Circle n'est pas européen.
C'est qu'effectivement, Circle n'est pas européen. Il est américain et c'est toute la difficulté et c'est tout le dossier qu'on a sorti chez Cryptost la semaine dernière avec l'intervention de Ladan et de Hugo Bordet chez Ladan que je salue, qui nous a aidé à comprendre un petit peu les enjeux. J'ai pu également échanger avec la direction de l'innovation de la Banque de France à ce sujet. Comment perçoit cette institution l'arrivée d'un acteur américain sur les stablecoins de la finance décentralisée, parce que c'est clairement là qu'ils sont utilisés. Si on veut dézoomer un petit peu sur ce qui se passe, on a globalement 99% des flux des stablecoins, donc ces tokens qui suivent le prix d'un actif, en l'occurrence celui du dollar, pour 99% d'entre eux. Et cette particularité est très dangereuse pour la souveraineté européenne. Clairement. C'est-à-dire qu'effectivement, en règle générale, dans la finance traditionnelle, c'est 75% des transactions qui sont en dollars. Là, on est sur 99% dans la finance décentralisée qui sont en dollars. Il y a globalement 158 milliards de dollars à l'heure actuelle en USDT et USDC, les deux principaux stablecoins américains. Il n'y a que 100 millions de stablecoins euros, tous stablecoins confondus. Donc effectivement, c'est dramatique. Pourtant, on a des acteurs français qui se positionnent dessus. Le LUG, qui est régulé en France, d'autres comme l'AG Euro ou le J Euro, qui sont des acteurs centralisés ou décentralisés qui émettent des stablecoins. Pourtant, là, le problème, c'est la régulation, c'est la réglementation, c'est MiCA, le fameux Marketing Crypto Asset, qui d'ailleurs est en train de se finaliser au sein du Trilogue actuellement. Donc, il ne faut pas faire de bêtises. Il ne faut pas se tromper sur peut-être la manière de réguler les choses. Parce que là, ce qui se passe, c'est...
C'est quoi ? C'est un excès de régulation, de réglementation ?
C'est un excès de réglementation parce qu'il y a des, pour les acteurs européens, de trop strictes mesures, barrières qui sont mises et qui empêchent ces acteurs européens de se positionner sur le territoire. La problématique étant que Circle étant justement en dehors de l'Europe, côté américain, ils n'ont pas à se préoccuper des problématiques de MiCA et pourtant, ils seront bel et bien listés dès demain chez Binance US, chez FTX ou même chez des brokers européens. Donc, il y a une entité américaine qui aujourd'hui va, qui est l'une des plus grosses émettrices de stablecoins au monde, qui va driver les stablecoins euros demain. Vraiment, c'est demain. C'est pas effectivement la phrase habituelle. Et pour préciser, parce qu'effectivement, c'est la discussion qu'on a eue avec la Banque de France. Il ne faut pas imaginer que les monnaies numériques de banque centrale qui arrivent demain, dans le futur cette fois-ci et pas demain en termes de date, pourraient être une confrontation sur les stablecoins et que l'Europe se dise on va temporiser les stablecoins, on va perdre cette bataille mais la gagner avec les monnaies numériques de banque centrale et l'euro. C'est deux choses totalement différentes. Le calendrier n'est pas le même. Les stablecoins, c'est déjà là. MNBC me disait la Banque de France, c'est pas avant 2025, voire 2027. C'est-à-dire qu'on a encore 2-3 ans de retard ou en plus par rapport au yuan numérique qui est déjà en circulation et aux stablecoins qui sont déjà là. Donc il y a vraiment un problème aujourd'hui de souveraineté nationale et il faut le comprendre. L'Europe doit prendre ses parts et doit prendre des décisions pour permettre à nos acteurs locaux de gagner du territoire sur la crypto-monnaie.
Jérôme, on est en train de louper le coche. Ça rappelle un petit peu les débuts d'Internet. 30 ans plus tard, les géants de l'Internet sont essentiellement américains.
Oui, ça fait un peu peur. Il y a un débat un peu. Est-ce que ce stablecoin euro sera disponible pour les acteurs européens? Est-ce que quand MiCA sera présent, est-ce que on peut le commercialiser en Europe? Je pense que là il y a un débat qui est ouvert. On en discutait tout à l'heure avec Valentin. Mais dans les deux cas, évidemment, s'il est autorisé en Europe, on est dans le pire des cas. C'est-à-dire que c'est un acteur non souverain, un acteur étranger qui émet de la monnaie européenne pour l'Europe. Là, ça devient embêtant. Mais même s'il n'est pas commercialisé en Europe, on a quand même à avoir de l'euro numérique. Alors, du stablecoin, pas de la monnaie numérique de banque centrale, est mis en dehors de l'Europe. Donc, MiCA a été fait en réaction, entre autres, au stablecoin de Facebook, Diem. Il ne faudrait pas que ça, justement, comme Valentin le disait, que ça gèle l'innovation européenne et qu'on se retrouve qu'avec des stablecoins dollars.
C'est très européen comme approche. On met des barrières quand il y a quelque chose de nouveau pour se protéger. C'est peut-être pas totalement inefficace, mais on perd beaucoup d'opportunités.
C'est la difficulté pour le régulateur, parce que quand même, il y a des choses qui sont gigantesques, des dizaines de milliards de dollars investis dans les stablecoins, avec des risques pour les investisseurs retail, des risques des gens qui vont investir dans des produits financiers qui ont l'air, qui promettent monts et merveilles et qui vont être ruinés. On l'a vu récemment avec Terra. Donc la volonté de protéger les consommateurs est légitime, mais trouver le bon niveau entre trop régulé et pas régulé du tout, honnêtement, j'aimerais pas être à la place du régulateur aujourd'hui.
Valentin, est-ce qu'on peut imaginer une régulation mondiale convergente, c'est-à-dire un jour trouver une régulation à l'échelle de la planète, ou alors, en tout cas des principaux blocs?
D'une partie, c'est la volonté, alors sur d'autres secteurs, mais sur la régulation quand même du GAFI, qui est cette instance en fait qui donne les grandes lignes qui espèrent être prises dans le monde. Et bien en fait, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on l'a écouté le GAFI, mais c'est quand même on a visé trop haut en Europe. C'était en tout cas les dernières semaines de négociations. Encore une fois, le trilogue européen est en train de statuer à l'heure où on parle sur ces sujets-là, davantage sur MiCA, mais aussi sur les autres. Là, on parle de la travel rule et ce genre de choses. Ce qu'il faut comprendre, effectivement, c'est que on est dans un time to market, comme on dit, dans un marché où on a, il y a un mois et demi, un stablecoin de 30 milliards, si on veut faire simple, l'UST qui s'est écroulé, qui allait à zéro, qui était un stablecoin algorithmique et qui effectivement a légitimement et sur ce plateau aussi pris la part de marché médiatique. Et on n'a parlé que de stablecoin. C'est pas tous les stablecoins. Là, on parle effectivement d'un stablecoin collatéralisé. Ça veut dire qu'effectivement, en plus de pouvoir les mettre, il y a une entreprise américaine qui va pouvoir accumuler des richesses européennes dans des comptes en banque réels parce que l'euro de Circle, ça sera 1 euro en compte en banque pour 1 euro émis sur la blockchain. Donc, il n'y aura pas ce risque systémique d'effondrement. Par contre, il y aura un risque systémique de capture de valeur crypto-monétaire, de capture de valeur étrangère au profit d'une technologie qui inévitablement prend de plus en plus de place. La DAN sortait encore une fois avec KPMG en soutien de Cryptost. C'est 8% de Français qui détiennent des crypto-monnaies aujourd'hui. Donc, comment on l'accompagne? Est-ce qu'on l'accompagne avec une MNBC dans 5-6 ans qui n'a pas vocation à prendre le rôle des stablecoins? Est-ce qu'on laisse le dollar s'imposer dans cette finance qui peut-être sera celle de demain? Ou est-ce qu'on commence à se poser les bonnes questions et à prendre des décisions qui pourraient, encore une fois, remettre l'Europe au centre de ses inquiétudes et de ce nouveau marché?
Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une prise de conscience des dirigeants européens qu'on prend du retard? Est-ce que la prudence s'impose selon eux et donc ils sont prêts effectivement à ce qu'on prenne du retard ou est-ce qu'ils ne voient pas ce retard?
Ça dépend des directions, ça dépend des personnes.
Et je ne vais pas vous reciter les propos de Christine Lagarde, mais on ne peut pas dire qu'elle soit particulièrement supportive, on va dire.
Partisane.
Voilà.
Malgré que son fils, effectivement, détienne des crypto-monnaies. Effectivement, il y a difficulté. Déjà, il y a un chamboulement énorme de la part de cette technologie qu'on s'amuse à dire qui est disruptrice, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'elle va chambouler un paquet de choses dont on n'a pas encore conscience, mais globalement, toute l'économie pourrait être bouleversée par ce genre d'avancée technologique. Est-ce qu'on a toutes les billes pour s'en rendre compte aujourd'hui? Je ne pense pas. Ces billes, elles commencent à venir sur le tableau parce qu'il y a des conflits géopolitiques, macroéconomiques. Et je pense que la Russie, qui accélère sa position du côté blockchain, elle n'est pas anodine par rapport au conflit. Et donc, forcément, ça fait que nos dirigeants, pour la souveraineté, doivent se positionner dessus. J'ose espérer, c'est un souhait, que dans les prochaines heures, les prochaines semaines, MiCA revoie certaines parties du texte, si tant est qu'il trouve un accord, et qu'il sorte peut-être la finance décentralisée de cette régulation qui cherche à mettre des intermédiaires là où il n'y a pas d'intermédiaires. Il n'y a pas lieu d'avoir des intermédiaires. Donc, en fait, il y a une prise de conscience d'une certaine partie des dirigeants, ou en tout cas de ceux qui conseillent ces dirigeants. Mais il y a peut-être une trop grosse peur parce que l'appareil a tendance parfois à ne pas bouger, c'est peut-être plus rentable que de le faire. Mais 10 ans après, effectivement, comme Internet avec le Minitel, regretter des choix qui auraient fait effectivement la force d'un territoire. Donc il y a une prise de conscience, oui, certaine, de certains dirigeants sur le changement qui est en train de se passer, le Salvador qui accepte comme monnaie légale, la République du Centrafrique, d'autres pays qui s'interrogent là-dessus. Ça éveille les consciences, même si certains s'amusent à dire que c'est anecdotique. Et je peux vous dire qu'effectivement, ça fait écho dans certains cabinets. Par contre, sur les stablecoins, on se dit qu'il y a une monnaie numérique de banque centrale qui va pointer le bout de son nez, on ne comprend pas tout, on se dit qu'il faut protéger les consommateurs, et c'est le rôle de nos institutions et des régulateurs, mais il ne faut pas le faire trop mal, il ne faut pas le faire trop vite, il faut en comprendre tous les enjeux, et c'est ce que j'espère que fait MiCA à l'heure où on parle sur ce plateau.
On va parler d'une chose très pratique, est-ce qu'on va pouvoir faire ses courses et les payer en Bitcoin? La compagnie Welling a annoncé qu'il sera possible de payer ses billets d'avion en Bitcoin à partir de l'année prochaine, et c'est l'occasion, Jérôme, de faire le point sur ce qu'on peut payer aujourd'hui. Est-ce qu'il est possible de payer ses dépenses courantes en crypto-monnaie?
C'est paradoxe, c'est que les cryptos ont été créés, Bitcoin a été créé comme une monnaie, ça a été un succès, le succès qu'on connaît comme actif, comme placement, même si en ce moment c'est un peu dur, mais ça a surpris tout le monde par l'ampleur du succès en placement, mais aujourd'hui personne, ou à peu près personne, ne paye en crypto-monnaie, ne paye en Bitcoin.
C'est quoi le principal frein? C'est le délai, le temps qu'il faut pour valider?
Il y en a plusieurs, c'est qu'il n'y a pas d'infrastructure. L'infrastructure n'est pas existante.
À côté de chez moi, j'ai un resto qui affiche qu'il accepte les crypto-monnaies.
Voilà, mais qui est anecdotique. C'est-à-dire, il y en a.
Je vous le confirme.
Voilà. Le point que je voulais faire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des moyens. Justement, je parlais d'infrastructures existantes. Les infrastructures acceptent des cartes Visa, Mastercard. Donc aujourd'hui, on peut payer avec ce qu'on appelle des cartes adossées aux crypto, avec une carte typique de paiement, une carte Visa. Donc je peux aller payer ma baguette ou mes courses avec une carte de paiement qui va être prise, qui va être adossée à des cryptos. Et c'est un marché qui est en plein boom. J'ai bossé jusqu'à récemment aux États-Unis où j'ai lancé des projets comme ça avec des fintechs. Il y a plus de 5 millions de cartes aujourd'hui adossées aux cryptos. C'est le secteur dans les cartes de paiement qui est le plus en croissance. Nous, chez IDEMIA, c'est ce qu'on fait. Alors la carte, c'est quelque chose d'important, surtout dans le domaine de la crypto, parce que c'est l'aspect physique, c'est le joli objet dans un monde entièrement virtuel. Donc on fait des belles cartes plastiques en métal, on vient de créer un hologramme.
Est-ce que c'est pas un peu anachronique de ressortir une carte physique pour une monnaie virtuelle ?
Ça permet de faire la transition. Parce que un jour ou l'autre, nous pensons qu'on pourra payer en crypto partout, mais en attendant qu'il y ait les infrastructures, c'est-à-dire aujourd'hui, quand je vais chez mon commerçant qui a un terminal de paiement, de là qu'il est, que le terminal de paiement accepte Bitcoin, alors il va peut-être y avoir des choses, les payment networks, les Mastercard et Visa, commencent à parler
aussi. Doucement.
Mobile, mais mobile, encore une fois, il faut pouvoir payer sur quelque chose. Ou pourquoi pas sur un mobile. Mastercard Visa commence à parler tout doucement d'accepter des crypto-monnaies. Mais au début, ça va être des stablecoins bien régulés. Je pense que Bitcoin, on va attendre un petit peu. Comme ils acceptent aujourd'hui l'euro, le dollar ou le yen. Donc ça, ce serait une méthode. Mais aujourd'hui, ces différentes cartes backées, adossées aux cryptos sont un moyen, tout de suite, ici et maintenant, pour faire des paiements en Bitcoin.
On va voir comment elles fonctionnent. Question à Valentin. Vous payez en crypto ?
Ça m'est arrivé effectivement d'avoir des cartes de certains échanges centralisés qui émettent leurs cartes. C'est sympa, c'est amusant. Effectivement, ça permet de dépenser ses crypto-monnaies. C'est un nouvel usage.
Mais ça reste anecdotique.
Ça reste anecdotique et puis c'est une lourdeur aussi fiscale parce qu'il faut prendre ça en compte dans la déclaration. Si on a des cashbacks, parce que généralement c'est aussi ça qui se passe, on offre de la crypto-monnaie quand on dépense avec la carte du partenaire. Mais en tout cas, ça reste anecdotique. Mais c'est un petit peu ce dont on discute depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que ces deux mondes qui s'affrontaient il y a 5 ans, qui aujourd'hui se toisent et qui demain peut-être auront le meilleur des deux, passera aussi pour le grand public et l'acceptation et le fameux mass adoption par ce genre de carte, parce qu'il faudra bien dépenser ce qui sera créé sur les réseaux et la capture de valeur crypto-monétaire.
Jérôme, en pratique, comment ça fonctionne une carte de paiement adossée aux cryptos ?
En fait, c'est très simple. Je vais avoir un wallet, donc un wallet chez Coinbase, chez Binance, etc., avec des cryptos dessus. Je vais payer avec une carte qui est une carte, encore une fois, Visa Mastercard. Je vais payer chez mon commerçant. Lui, il est payé en euros. Il ne voit même pas la différence, transaction tout à fait normale. Et pour moi, je vais avoir l'impression de payer en Bitcoin parce que l'argent pour la transaction, les 50 euros que je vais payer, vont être pris en Bitcoin. En fait, Binance va vendre instantanément pour 50 euros de Bitcoin de façon à avoir les fonds pour ma transaction.
Ça, c'est important. Le taux de change, il est instantané.
Le taux de change est instantané, mais il y a un spread. C'est-à-dire ce que disait Valentin, il faut faire attention à deux choses sur ces produits-là. D'abord, les frais sur la transaction, qui peuvent être un spread sur le prix du Bitcoin ou qui peuvent être des vrais frais, des frais directement de 2,5% par transaction. Et ensuite, l'événement fiscal. C'est-à-dire qu'au moment où je paye, en fait, je vends des Bitcoins, donc il va falloir que je les déclare à la fin de l'année.
Donc, carte de paiement, carte de débit, carte de crédit, ça change quelque chose ?
Alors, les cartes de débit, c'est ce que je viens d'expliquer. Les cartes de crédit, c'est une mécanique différente puisque je vais avoir des récompenses, du cashback, par exemple, en crypto. Par exemple, BlockFi, il propose 1,5% de cashback en crypto. Chaque fois que je vais payer, donc là, je paye en euros ou en dollars, mais la récompense, le cashback, vient en crypto. Il y a Crypto.com qui l'a fait et qui récemment a revu à la baisse, qui était très généreux dans son offre, qui a revu à la baisse ses promotions et ça a fait du bruit sur Reddit. Les clients n'étaient pas très, très contents.
Valentin ?
Bah, effectivement, c'est des propositions commerciales. La guerre des cartes de paiement, de crédit, effectivement. Alors, ça se joue sur le spread, mais le grand public ne voit pas le spread. C'est-à-dire la différence de vente. En fait, je vends mon bitcoin 500 dollars, peut-être plus bas sur certaines plateformes qu'ailleurs.
Je vous garantis qu'on le voit pas sur les bitcoins, mais quand vous allez en vacances, par exemple, aux États-Unis, vous voyez l'écart entre le calcul que vous faites au moment où vous payez l'addition et parfois la surprise sur le compte en banque.
Et c'est effectivement ce que.
C'est pareil pour le bitcoin.
C'est pareil pour le bitcoin dans les échanges centralisés qui les vendent. Effectivement. Mais sur ce point-là, l'argument commercial, c'est le cashback. Pour la plupart des plateformes, effectivement, quand tout un argument commercial est basé sur le meilleur cashback et que celui-ci est divisé par deux ou trois parce que c'est pas soutenable pour l'entreprise de donner autant d'argent à la dépense d'euros, de dollars ou de vente de bitcoin instantané, bah forcément ça fait un peu de bruit. C'était le cas de Crypto.com qui avait largement baissé ses taux, qui avait effectivement subi une vague de personnes mécontentes sur Twitter et Reddit, qu'ils avaient légèrement remonté, mais ils ont perdu une base de clients importante, sachant qu'en fait, quand on achète pour la plupart des plateformes, en plus quand on prend des cartes, il faut bloquer de la crypto-monnaie pendant un certain temps sur la plateforme. Donc effectivement, c'est un gage aussi d'engagement justement envers ces plateformes. Et quand c'est pas réciproque, ça fait parfois un peu bazar au sein de la communauté. Mais puisque c'est pas décentralisé ces plateformes-là, mais les communautés sont fortes. Effectivement, la plupart des projets finissent par écouter. Dans tous les cas, s'il n'y a plus de clients, il n'y a plus de business model. Donc ils font attention à ça.
On l'a bien compris, activité en plein développement. Quelles sont les prochaines étapes ? On va bien finir par se passer de la carte physique.
Oui, bien sûr. Ce qu'il va y avoir plusieurs étapes. Pour l'instant, on accélère dans cette direction parce que c'est ça qui marche. Donc, Mastercard, Visa, Amex, American Express vient d'annoncer qu'ils rejoignaient ses amis et qu'ils se lançaient dans le business également. Il y a des offres intéressantes, justement, tu montres bien, Valentin, la limite entre le centralisé et le décentralisé. Donc Nexo, qu'on connaît bien, a lancé, encore une fois, une carte, mais qui reprend les méthodes de la DeFi. C'est-à-dire, pour avoir du crédit, c'est du crédit, mais pour garantir mon crédit, je vais mettre un collatéral en crypto, exactement comme on fait dans la DeFi. Donc on voit des méthodes, même si on est complètement dans le centralisé, des méthodes qui reprennent les décentralisés. Et puis derrière, bien évidemment, c'est une vraie acceptance des cryptos au point de vente, avec des nouvelles méthodes, peut-être de la monnaie numérique de banque centrale dont on parlait. Moi, j'y crois, je suis un fan. J'aime bien aussi les stablecoins. Je pense que les deux doivent vivre ensemble.
Tout à fait.
On a un problème en Europe là-dessus. Aux États-Unis, ils sont beaucoup plus rationnels sur la cohabitation des deux. Donc oui, l'arrivée de toutes les cryptos, les stablecoins et les monnaies numériques de banque centrale au point de vente, je pense que ça va arriver.
Le fait que des émetteurs, des marques connues, reconnues et installées depuis longtemps, Mastercard, Visa, s'ouvrent à cet écosystème, est-ce que ça va démocratiser le Bitcoin ? Je veux dire, c'est rassurant d'avoir une marque qu'on connaît depuis plusieurs décennies s'ouvrir sur un marché comme celui-ci ?
Oui, clairement.
Pour des personnes de mon âge.
Ou du mien. Oui, évidemment, c'est sûr que justement, même ces cartes, c'est très rassurant pour une certaine partie de la population. Mais derrière, pour eux, c'est un challenge, parce que quand même, pour Mastercard et Visa, tout le monde décentralisé, c'est un concurrent. Donc toutes ces initiatives, le Diem de Facebook, ils étaient dedans. Mais d'un autre côté, ils se posent la question, est-ce que c'est vraiment là qu'ils veulent aller ? Donc ils y vont prudemment, pour l'instant. Et l'histoire dira où ça va aller.
Valentin, c'est vous qui m'expliquiez qu'il fallait une dizaine de minutes entre le moment où on paye un café en crypto et le moment où le commerçant a la confirmation ?
Alors, effectivement,
le café
c'est...
est froid, finalement.
Le café peut être froid. Si c'est une baguette de pain, ça pose moins de problèmes. Mais pour le café,
peut être assis, on a dit trop longtemps.
On a déjà trouvé des solutions, notamment le Lightning Network, ouais. Et cette surcouche sur le réseau Bitcoin qui permet en quelques secondes de valider des transactions. Et surtout, et c'est l'un des arguments aussi importants du Lightning Network, de ne pas faire travailler des réseaux énormes de paiement comme celui qui est Bitcoin pour payer quelques centimes. Donc c'est une alternative intéressante. Mais effectivement, il y a des Mastercard, Visa, qui d'ailleurs se positionnent aussi sur la crypto-monnaie. On peut payer directement en USDC sur certaines de ces plateformes, sur certains de ces distributeurs aussi. Donc c'est vraiment quand on ne peut pas lutter contre un mouvement, il faut l'accompagner, comme on dit. Donc là, ils ont très clairement compris ça, ils ont vu qu'on ne pouvait pas lutter, et les différents sondages de la BCE qui dit que 10% des Européens détiennent des crypto-monnaies, hein, le témoignent. 8% pour la Dan et KPMG, encore une fois, est financé par Cryptost. Mais là aussi, ce qui est intéressant, c'est que le chemin inverse existe. On a beaucoup parlé ici des grosses plateformes centralisées qui commencent à faire des OPA sur les plateformes décentralisées. Attention, on a beaucoup de nuances, on les a expliquées ici. Par contre, l'inverse est également en train de se faire. Il y a des gros protocoles de finances décentralisées qui ont des montants assez importants de trésorerie qui cherchent à acquérir des plateformes centralisées ou en tout cas à prendre part dans l'univers de la finance traditionnelle. Et puis, il y a des acteurs décentralisés comme AAV, le protocole d'emprunt et de dépôt dans la finance décentralisée qui est majoritaire sur son secteur, qui a des licences qui leur permettent de réfléchir à lier les deux mondes et peut-être dans les prochaines semaines, les prochains mois, de sortir une carte bancaire. Donc effectivement, on pourra voir dans quelle direction ça va.
Merci à tous les deux. Valentin Demey, journaliste chez Cryptost, et Jérôme Heidenbaum, vice-président en charge des crypto-monnaies chez Idemia et auteur de La guerre des crypto-monnaies aux éditions Maxima.
Merci à vous
beaucoup.
Merci.
On marque une pause. À suivre, le club. On parlera de sujets un peu plus conventionnels. L'inflation en Espagne qui dépasse désormais les 10%. Est-ce qu'on a atteint le pic d'inflation ? Vous le verrez, certains ne parlent plus de pic d'inflation, mais de nouveaux paradigmes. On verra ça en détail. Y a-t-il un risque de hard landing de l'économie ? La saison des résultats, on parlera de tout ça après la pause.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.